Merci Clément. Sinon, vous pouvez mettre à 9h38 pour Matthieu 9:38, c'est exactement le même commandement. Si vous êtes zélé, vous le mettez à 9h38 et à 10h02. Très bien. Alors, on va attaquer. Pour que je me rende compte un petit peu, combien n'étaient pas là hier soir? Waouh, ok, d'accord. Alors, je vous fais un court résumé de hier soir pour que vous compreniez vraiment ce qu'on va faire ce soir ensemble. Alors, hier soir, nous avons vu que la pensée postmoderne en soi, donc, c'est-à-dire la remise en question d'une vérité absolue, la remise en question d'une morale absolue, la remise en question de la morale, de la vérité, j'ai dit. De quoi encore? Aidez-moi à me rappeler. La connaissance. Tout ce qui peut être, ce qui relève de ce qu'on appelle la transcendance, est remise en question parce que les gens ne croient plus en la philosophie comme possibilité d'accéder à la raison et à la connaissance, parce que la philosophie a montré ses limites. Les gens ne croient plus en la science et au progrès, parce que la science et le progrès ont aussi montré qu'elles n'apportaient pas forcément que des bonnes choses. Et les gens ne croient plus en la religion, parce que la religion a aussi montré qu'elle apportait des choses mauvaises. Et du coup, la pensée postmoderne est une déconstruction de la pensée moderne, qui, elle, était fondée sur le fait que l'homme pouvait, par la raison, comprendre le véritable sens des choses et de la vie. Et pour le contexte européen, notre culture européenne, il y avait derrière l'idée de religion qui donne la vérité. Mais la religion a été mise en cause. Aujourd'hui, je discutais avec une dame, à chaque fois que je lui parlais de Jésus, elle me répondait « Oui, mais moi, la religion, vous savez. » Après, je lui parlais de la foi. Elle me disait « Oui, oui, mais c'est bien la foi, mais moi, vous savez, la religion, c'est vraiment pas mon truc. » À chaque fois, elle revenait à cette idée de religion, parce que derrière toute vision de Dieu, les gens pensent religion, héritage catholique, principalement en France. Oui, héritage musulman aussi. Voilà. Alors maintenant, ce soir, nous allons voir comment répondre aux objections qui sont formulées dans le postmodernisme. Alors, ce que je vous propose pour commencer, la première étape, c'est qu'il faut bien déceler les racines de l'opposition. Et il faut pour ça actualiser notre raisonnement apologétique. Souvent, quand on veut répondre aux gens, on veut leur répondre avec logique. Par exemple, nous sommes dans le pays des Lumières, souvent on se rattache à ça, nous sommes dans le pays des Lumières, de la philosophie, de la pensée rationnelle, nous sommes donc rationalistes, nous sommes donc humanistes. Mais les gens ne sont plus rationnels, parce qu'ils ont remis aussi en question ça. Et souvent nous, pour nous, les questions les plus importantes, c'est... la Bible est-elle fiable? Pour nous, c'est très important de démontrer que la Bible est fiable. Ou, par exemple, peut-on prouver l'existence de Dieu? Et si on arrive, qu'on démontre que la Bible est fiable, qu'elle est véritablement parole de Dieu, qu'on peut avoir confiance en elle, pourquoi? Parce qu'il y a des preuves externes, archéologiques, philologiques, etc., et des preuves internes, des prophéties qui se sont réalisées, une foule de documents qui sont recroisés, qui nous permettent d'attester avec assurance que ces textes étaient bien écrits 200 ans avant Jésus et qui ont décrit clairement ce que vivrait Jésus et tout ça. Enfin voilà, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on risque de nous répondre? Et je suis sûr que vous avez vu cette forme de réponse dans la rue, c'est « Ouais, ok, merci, mais c'est bien pour toi, quoi. » Je m'en fiche. Ok, c'est autorité, c'est vraiment Dieu, Dieu existe, ok, qu'est-ce que ça change pour moi? Rien. C'est la question de la plausibilité, C'est la question de Sartre. C'est si Dieu existe, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Il y a peu de temps, on a eu la chance à Aix-les-Bains, dans, là où nous sommes en implantation d'église. Là-bas, c'est super pour nous. Il y a une aubaine vraiment. C'est qu'il y a chaque année à Aix-les-Bains le Festival national de la voyance et du bien-être qui s'organise. C'est une ville qui est imbibée par l'occultisme. Et donc, il y a là-bas, pendant ce festival, il y a tout plein de stands de voyants, de médiums qui sont là, et les gens peuvent aller consulter, et puis il y a des conférences de voyance en direct, et tout ça. Et j'ai eu l'occasion, on est allé là-bas, on a pu évangéliser et tout, c'était super. Il y a une voyante qui m'a dit qu'elle parlait aux anges, qu'elle avait des révélations grâce aux anges. Et je lui dis, ah, mais c'est intéressant, mais ben, vous savez quoi? Moi, je parle à leur patron. Et il m'a donné une révélation. Oui, mais moi, j'ai fait des expériences mystiques, vous savez. Je dis, oh, mais moi aussi, j'ai fait une expérience. Est-ce que je peux vous la raconter? Du coup, je lui ai raconté ma conversion en large et en long, à travers le salut, que Jésus a toute autorité, que si tu as envie de mystique, ben, autant aller voir Jésus, quoi. Hein? Mais j'ai pu assister surtout, c'est là que je vais en venir, à une conférence de voyance en direct. Et les gens, j'étais surpris, ça a été un très bon rappel. Parce que souvent, quand nous présentons l'évangile, nous présentons la question de la culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable? Le jugement final, la relation avec Christ, la fondation du monde, l'éternité. Mais les gens s'en moquent. Souvent, qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée postmoderne, vous savez, on a déconstruit, vous vous souvenez du point d'interrogation, il n'y a rien après, on s'en fout, tu me dis ça, c'est ta croyance, moi je m'en fiche. Et les gens, dans ce festival de voyance, donc pendant cette session-là qu'il y avait, leur question c'était, est-ce que mon fils doit faire un BTS mécanique, ou est-ce qu'il doit, un BTS, je sais plus ce que c'était, en commerce, ou est-ce qu'il doit faire une fac de droit? Et le voyant, il disait, je vois plus un BTS, hein, c'est plus raisonnable. Okay, d'accord. Et puis les gens rentrent chez eux et disent à leurs enfants, il faut que tu fasses ça. Ou, je dois déménager, vous pensez que c'est mieux avant l'été ou après? Oh, vous savez, je pense que ça va prendre du temps. Ok, merci. Mais en fait, les gens, quand ils pensent au spirituel, ils pensent à des choses très matérielles, très concrètes. Et je crois que quand on présente l'évangile, nous on est dans un grand plan cosmique de la création, de la chute, de la rédemption, qui est vrai et qui est important de dire, mais il ne faut pas oublier de dire que l'évangile est aussi une réponse pour aujourd'hui. Que Christ veut une relation avec nous et que ça compte aujourd'hui. Pourquoi les gens disent ça? Comme on l'a vu hier, c'est l'héritage de la pensée des maîtres du soupçon de Nietzsche, Marx, Darwin et j'oublie Freud. Alors je suis désolé pour ceux qui viennent ce soir, pour les autres, on va vraiment pas répéter ce qu'a enseigné Nietzsche, etc. parce que on a survécu hier soir, ce soir, on n'y arriverait pas. Alors, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 19. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il me rappelle la nature même du doute de l'homme quant à Dieu. La nature du doute, du scepticisme, n'est pas intellectuelle, la nature du doute est spirituelle. Jésus explique à Nicodème que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la lumière, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Le fond du problème est spirituel. Du coup, s'il est spirituel, je vous propose très rapidement, de revenir à l'origine du problème. Le drame de Genèse 3, c'est le scepticisme insufflé par Adam. Satan est malin, je sais que vous avez eu un week-end où vous avez parlé de Satan, c'est super, moi je parle de Jésus quand je fais des week-ends d'église. Lol. Ça sera coupé au montage, hein. Satan est malin, il a pas donné, il a pas dit quelque chose de totalement faux, il a pas monté un gros bobard, il a immiscé le soupçon. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous êtes sûr vraiment que ça va se passer comme ça? Le soupçon. Et nous sommes, nous-mêmes, dans l'ère du soupçon. Nous l'avons vu hier. Et au final, l'homme ne fait que reproduire une mécanique que Satan connaissait déjà très bien. On n'a rien inventé. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? La remise en question de l'autorité du Créateur, de sa parole, c'est une attaque directe, la remise en question de son jugement, est-ce qu'il va vraiment, est-ce que vous allez vraiment mourir? Vous êtes sûr de ça? Dieu va-t-il vraiment juger? Ouais, mais moi je suis pas quelqu'un de si mauvais que ça. Franchement, Dieu m'acceptera. On a les mêmes arguments que Satan. Et une remise en question aussi de la bonté de Dieu. Et toute racine, la racine du péché, c'est la remise en question de la bonté de Dieu, de son plan, de sa loi, de qui il est lui-même. C'est le doute qu'en obéissant à Dieu, c'était quelque chose de bon. Le premier péché est un péché contre la bonté de Dieu. Et les conséquences de ce drame, c'est la possibilité de se poser en autorité pour porter un jugement sur ce qui est bon ou mauvais. Selon moi, je pense que ça c'est bon ou ça c'est mauvais. C'est, comme le formule Carson, que beaucoup pensent que le péché est une infraction à une règle, mais l'enjeu est tellement plus profond, plus grand, plus triste, plus laid, plus ignoble. C'est une révolution. Elle m'élève en tant que Dieu et par conséquent détrône Dieu. Et le problème donc ultime de notre éloignement de Dieu, de notre tentative de nous définir en tant que propre référence, c'est l'idolâtrie qui veut détrôner Dieu. L'homme se met à la place de Dieu. Et Adam et Ève ont mis la parole de Satan au-dessus de la parole de Dieu. La parole du soupçon au-dessus de la parole de la bonté et de l'autorité du Créateur. Donc, pourquoi je suis revenu là-dessus? Et je veux pas sembler hors propos. C'est surtout parce qu'il faut qu'on se rappelle dans nos discussions que la racine de la rébellion contre Dieu, elle n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Et que du coup, les gens ont besoin de Dieu forcément pour briser ça. Alors, toute opposition à Dieu, à l'idée même d'un Dieu créateur, saint, juste, a pour racine l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'homme qui se met au-dessus de Dieu. Comment déceler les idoles qui sont dans notre postmodernité? Alors, hier, je vous ai mentionné l'ouvrage de Tim Keller qui s'appelle « Les idoles du cœur », dont je vous conseille la lecture. Et Tim Keller dit qu'il y a trois façons d'identifier ces idoles. Et voici les questions que l'on peut poser. Alors ça, c'est des tuyaux que l'on peut, c'est des tuyaux pour nous dans notre évangélisation, notre témoignage au quotidien avec nos amis. Des questions qu'il faut se poser quand on voit la façon de penser des autres et leur mode de vie. Et aussi pour les notes, déceler les idoles dans notre propre vie. Hein, ça fait jamais de mal. Premièrement, c'est l'amour. L'homme aime son idole. Et la question qu'on peut se poser, c'est: qu'est-ce que l'on aime le plus? À quoi est-ce que tu rêves? Quel est ton rêve? Quelles sont tes aspirations les plus profondes? Et puis, en quoi tu te confies? En quoi est-ce que tu te confies? En quoi tu espères la sécurité? Et puis, l'obéissance. À quoi est-ce que tu obéis? Qu'est-ce qui te fait te bouger, te motiver? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu penses que cette chose est indispensable? Et nous avons des choses dans lesquelles, nous-mêmes dans nos vies, nous pensons indispensables. Je ne parle pas de l'oxygène que l'on respire ou de la nourriture. Je parle de ces choses où on se dit « sans ça, je ne peux pas ». C'est l'image de la béquille. On a l'impression que si on nous l'enlève, on va tomber. Voilà un petit... Excusez-moi, il y en a qui prennent des notes, alors je vais vite. Si, si. Il y a des stylos, ils fument, là. On est bon ? Ok. Ok ? Alors, comment répondre, du coup, à ces objections en ayant ça bien en tête ? Première chose que je voudrais que nous ayons à l'esprit, c'est que le scepticisme est notre meilleur allié. Pourquoi ? Parce qu'un sceptique est forcé de douter de son scepticisme, puisqu'il doute de tout. C'est un raisonnement par l'absurde, mais quand on doute de tout, on peut rien affirmer. Et il y a des gens qui sont sceptiques et qui affirment qu'ils sont sceptiques, et c'est pour ça que c'est impossible de croire. Vous voyez comment ça se mord un petit peu la queue. L'exemple d'une remarque qui tue. Et je voudrais qu'on revienne là, ce soir, je voudrais là deux personnes maintenant, s'il vous plaît, qui viennent, et on va faire un exercice. Deux volontaires. On applaudit. Voilà. Alors, tu vas jouer le rôle du gentil. Un t-shirt blanc, un t-shirt noir. Allez, un deuxième ? Un win. Hein. Allez, non, mais on est entre nous, là. C'est pour s'essayer. Voilà. Alors, tu vas devoir jouer au journaliste. Vous vous souvenez les trois questions que je vous ai dit qu'il faut poser ? Hein ? Non, pas celle-là. Les questions du journaliste. Voilà, alors tu vas voir, on va le faire. Alors, tu vas voir, tu vas comprendre. Tu te tournes, tu te mets face à elle. Alors, est-ce que tu peux, Priscille, s'il te plaît, nous formuler une remarque qui tue ? Pour toi qui te mouche. Qui te mouche, qui te coupe le sifflet. Voilà, terminé, t'as plus rien à dire, tu dis « je sais pas ». Non. Ou invente. Pour toi, qu'est-ce qui serait l'opposition Ouais, je te parle pas d'une question, je te parle d'une affirmation, une remarque qui... D'accord. Qui te l'a dit ? Personne te l'a dit ? Vous voyez mon talent de metteur en scène. Hein. C'est une très gentille méchante. Non, alors, bon, en fait. J'aurais dû répéter. Quand on vous affirme quelque chose, la plupart du temps, ce sont des formulations qui sont gratuites et vous allez voir qui ont ni queue ni tête. Et ces formulations gratuites, nous, on se croit tout de suite obligé de raisonner avec et d'y répondre. Hein, souvent, ouais, mais de toute façon, voilà, la Bible, la Bible, elle est trafiquée. On sait que ça s'est pas passé. Et cette première question, en fait, ce que je veux vous dire, c'est questionner l'affirmation qu'on vous dit. Parce que vous, quand vous dites des affirmations, on va vous les questionner. Et donc, il faut faire pareil. Donc, tu as dit comme affirmation. Voilà. Qui te l'a dit? D'où vient cette pensée? Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire? Non, toi, qu'est-ce que tu entends? Ouais, ouais. D'où elle te vient cette pensée que c'est l'homme qui a créé Dieu? C'est une réponse de chrétienne, ça. Bon, ok, c'est pas grave, je vais pas te coincer, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, retournez à votre place, parce que si on va, on va perdre de temps, mais... Et oui, excusez-moi. Du coup, alors la source, souvent, la source c'est soi-même, ou c'est, mon père m'a dit que l'évangile, de toute façon, c'était trafiqué. Du coup, après, on peut poser la deuxième question. Quelle est la compétence de la personne qui t'a dit ça? Ou, moi je pense que... la Bible a été trafiquée. Ok, quelle est ta compétence? Tu t'y connais? Hein? Quelle est avec quelle autorité tu peux affirmer cela? Parce que si tu n'es pas compétent, c'est un peu gratuit. Hein? Troisième chose, maintenant, est-ce que tu peux me le démontrer ce que tu affirmes? Parce qu'une vérité peut être démontrable. En tout cas, on peut en donner... Des marques, des révélateurs qui nous permettent de la saisir. Et ça, c'est la question du faisceau des preuves, vous savez, où on peut retrouver les choses. D'accord? Ça, je vous le dis, vous le trouverez pas dans un bouquin d'apologétique, mais je pense que ces trois questions sont vraiment utiles à poser pour interroger les affirmations gratuites que l'on nous lance. D'accord? Alors, les objections, pourquoi est-ce qu'elles sont nos meilleures occasions? Parce qu'elles sont source d'un intérêt. Et ne vous paralysez pas quand on vous formule une objection, ça veut dire que la personne a un intérêt pour ce que on lui dit. Deuxième chose, c'est qu'elle nous révèle des infos sur la personne que l'on a en face. Et ça, je vous encourage à bien écouter les objections et la façon dont elles sont formulées. Parce que soit il s'agit d'une objection qui est d'ordre intellectuel, la personne a besoin de la réponse, soit c'est émotionnel, parce qu'elle a vécu dans sa vie une grande souffrance. Donc du coup, elle ne peut pas tolérer que le mal existe, enfin que Dieu existe. Et on ne va pas répondre à quelqu'un qui a juste une interrogation philosophique de la même manière que l'on va répondre à une mère qui a perdu un enfant. Hein, c'est pas là, elle aura besoin d'écoute. Elle aura des fois, c'est là qu'il faut bien savoir la fermer aussi et accueillir sa souffrance et sa rébellion envers Dieu et être capable de aussi lui présenter de la grâce. Quoi. La virulence cache souvent une incapacité à formuler une réponse alternative cohérente et solide. Très souvent, par la virulence du propos. Par l'agressivité, on cache l'incapacité à formuler une autre solution. C'est simplement émotionnel, on n'est pas d'accord, on verrouille et on n'est pas prêt à discuter et du coup, ça sort de façon plutôt violente. Et souvent, dans l'athéisme, se cache derrière, parce que nous sommes dans une culture post-moderne, une virulence derrière la religion. Pourquoi? Exactement. Entre autres. Mais c'est le fond. C'est vraiment un rejet. Et en fait, l'athéisme est plus un rejet, souvent, de la religion, plutôt qu'une position philosophique choisie. Hein? Enfin, elles nous permettent de structurer notre argumentation en fonction de ce que nous dit la personne et de sa vision du monde. Une objection va nous permettre de formuler une réponse qui va être adaptée. C'est l'image de la haie que l'on franchit, qu'a formulée hier Guillaume. Et puis, un moment d'attention, car il nous teste comment est-ce qu'il va s'en sortir. Là, je l'ai eu, j'ai la question qui tue, et comment est-ce qu'il va faire ? Et c'est des tests que nous devons aussi franchir. Et enfin, elles sont les clés des portes fermées. Souvent, ces objections. Et si on comprend le mécanisme et qu'on arrive à tourner la clé, ça peut vraiment faire aborder le débat. Alors, souvent dans la rue, c'est difficile parce qu'on discute à bâton rompu. Mais si vous avez une discussion avec un ami, je crois que c'est Guillaume qui rappelait hier, n'hésitez pas à dire, écoute, je ne sais pas, mais je vais réfléchir sur la question, je vais me renseigner pour t'apporter une réponse cohérente, construite. Et du coup, ça, c'est la clé. On va chercher la clé et après, on peut ouvrir la porte. Alors, comment vérifier qu'un énoncé excusez-moi, j'ai revu mon PowerPoint tout à l'heure, j'ai modifié. Alors, comment vérifier un énoncé et son contenu, voir si le raisonnement est vrai? Quand on vous présente une vérité, il y a deux tests à faire passer, c'est le test de la vérité et le test de la validité. Alors, quand on parle de vérité, je parle de vérité au sens de la connaissance. C'est-à-dire que l'énoncé correspond à un fait. Tous les matins, le soleil se lève. Ok ? Je ne parle pas de vérité métaphysique, Dieu existe ou des trucs comme ça. Je parle de vérité au sens de la connaissance par nos sens. Deuxième chose, le test de la validité. C'est-à-dire que l'énoncé, la chose, l'objection, ne doit pas comporter de contradiction en elle-même. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas propres à l'apologétique chrétienne, mais c'est propre à une pensée qui se tient un minimum. D'accord ? Donc vérifiez qu'il n'y a pas une contradiction. C'est la vérité au sens épistémologique. C'est-à-dire 2 plus 2 égale 4. On ne peut pas discuter, c'est pas par exemple comme une question de morale, où la morale, tu vas dire, oui, pour toi ça va être ça, pour moi ça va être ça. Là, il y a une logique qui est universelle. Dans tous les peuples, dans tous les âges, 2 plus 2 égale 4. C'est presque une loi. Oui. 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 Très bien. Merci. Très bien. Voilà, tu l'observes, tu le constates. Ok ? Alors, du coup, je vous propose, vous allez me dire, vous allez voir, c'est des exemples, là, qui sont vraiment connus, ils sont pas de moi, j'aurais bien aimé, mais je vais vous énoncer des vérités et vous allez voir comment je peux vous enfumer. Si Marion prend une douche, Marion est mouillée. C'est une vérité ? Non, mais là, Marion ferme le robinet de la douche, Marion est mouillée. Ok ? Non, mais vous allez voir, ça va venir. Deuxième fait, deuxième énoncé, or, Marion est mouillée. Donc, si Marion est mouillée, c'est que Marion a pris une douche. Ah, s'il pleut, ah oui, dis donc, je l'aurais pu prendre à main ou être à la piscine, hein? D'accord? Et là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y a des vérités, mais on ne peut pas valider. Je vous montre un autre exemple, celui-là est fameux et je l'aime beaucoup. Dans les mentales, il y a des trous. D'accord ? C'est vrai ? D'accord. Donc, logiquement, plus il y a des mentales, plus il y a de trous. On est d'accord ? Ok. Mais, plus il y a de trous, moins il y a des mentales. Donc... J'aurais aimé que ce soit de moi. Je suis même pas encore avec un esprit assez tordu pour arriver jusque-là. Donc, plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. C'est stéréotypé, mais c'est réellement des raisonnements que l'on a. Et ça, ça s'appelle du sophisme. Ok ? Pas du soufisme. Ok ? J'ai confondu pendant un temps quand j'étais plus jeune, et du coup j'avais un gros problème. Le sophisme. Le sophisme, c'est dans la rhétorique, dans l'art d'articuler un discours, c'est manipuler des arguments, des vérités de façon fallacieuse pour tromper l'autre. Nos chers politiques sont des professionnels là-dedans. C'est vraiment tourner dans un sens vraiment vicieux. Alors des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé très souvent et on le fait tous au quotidien. D'accord ? Alors, maintenant, je voudrais que l'on voit ensemble des affirmations qui sont non logiques et que vous me disiez pourquoi, des objections que l'on vous formule. Et là, c'est vous qui allez travailler maintenant. La vérité dépend de chacun. Non ? Why ? Oui. Oui. J'aime bien, mais en termes de logique. Est-ce qu'il y a une contradiction dans ce qui est dit ? Alors, attends, laissez-la, vas-y. Oui, mais là, tu me démontres pas que ça, c'est faux. Vas-y. Oui, mais ça, c'est une conclusion. Mais tu donnes une autre vérité. Moi, je pourrais te répondre à ce que tu me dis. Oui, mais ça, c'est ta vérité. Là, je suis dans le sophisme. Je ne sais pas. Chacun sa vérité. Hein. Pour moi, tu peux définir la vérité comme tu veux. Hein. Oui. Ouais.
Il y a une vérité chacun.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ta vérité.
Alors, ce qu'on appelle en
réalité, c'est une contradiction. T'es sur
Wikipédia,
là ?
En fait, c'est dire la vérité du point de chacun. Ça revient à dire que une autre personne peut dire. La vérité dépend de personne, je suis sa vérité, tu vois. Mais dire la vérité dépend de chacun, c'est mettre cette vérité-là au-dessus de l'autre, comme absolue.
Oui, c'est ce que tu fais.
Ouais.
D'accord. Non, mais c'est bien. Mais pour moi, je pense que la vérité, ça, c'est ta vérité. Parce que pour moi, ma vérité, c'est que chacun est libre d'avoir sa vérité.
Du coup, le gars qui dit ça, il met sa vérité, comment dire, voilà.
Oui, voilà, c'est l'argument. Tu t'en es rapproché, on s'en est rapproché, on a tourné autour. Mais vous voyez que moi, je peux toujours revenir avec la même réponse. Ok ? Ce qu'il faut faire là, c'est montrer qu'il y a une incohérence interne. C'est que l'énoncé se contredit lui-même. Parce que en disant « la vérité dépend de chacun », je fais quoi ? J'énonce une vérité. Donc, il y a une auto-réfutation. Là, ça, c'est une vérité. La vérité dépend de chacun. Je t'énonce ça comme une vérité. Or, la vérité que je t'énonce se contredit elle-même. Pardon ? Oui, mais je te l'énonce comme un absolu. Ah oui, ça se réfute tout seul. Parce que j'énonce une vérité. Mais non, mais comment tu peux dire qu'il n'y a qu'un seul Jésus, à chacun sa vérité ? Ah bon, mais ça c'est de la vérité alors ? Oui. Comprenez ? Voilà. On est dans le sophisme. C'est... D'accord ? Donc, il y a une incohérence interne. Il y a une contradiction même dans l'énoncé. Ok ? Deuxième chose, l'univers est un effet qui n'a pas de cause. Ça existe, c'est tout, c'est comme ça. Vision du monde matérialiste, l'univers est là. Point barre. Que répondez-vous à ça? Excellent. Et là, il y a une incohérence externe, c'est-à-dire que l'énoncé rentre en contradiction avec une autre vérité que je connais par ailleurs. C'est que un effet, par définition, a une cause. C'est le lien causal. C'est, voilà, c'est pas quelque chose de moral, c'est pas quelque chose de relatif, c'est de la... Oui. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que Dieu il a une cause? D'accord? On y revient, on laisse en suspens? Oui. Non, mais ça va vous aider dans la réfutation, à construire une réfutation qui sera solide. D'identifier où il y a baleine sous caillou, quoi. C'est-à-dire, si la personne te dit « la vérité dépend de chacun », tu peux lui dire « mais tu es sûr de ça, que la vérité dépend de chacun ?»« Oui, j'en suis sûr. » Mais donc, du coup, tu me donnes une vérité qui est absolue. Il n'y a pas d'autre choix que ce que tu dis. Donc en fait, tu te contredis. Tu vois, c'est vraiment... tu prends le truc, tu retournes et tu lui renvoies dans le visage. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Oui, alors est-ce que vous pouvez me donner maintenant une formulation, vas-y, sur la divinité de Christ? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer la divinité de Christ? Oui. Super. Donc là, Jésus a dit qu'il était Dieu. Pour nous, il y a une incohérence avec les faits, c'est que Jésus l'a formulé, clairement. Et pour nous, aujourd'hui, il dit pas « je suis Dieu ». Mais quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis », pour un juif du premier siècle, ça fait forcément tilt. Et pour nous aujourd'hui aussi. Parce que quelqu'un qui a existé des siècles et des siècles avant, il dit « moi j'existe avant lui », ça veut dire qu'il y a une préexistence avant l'incarnation. Ok, donc Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Voilà. Donc l'énoncé contredit des faits, Jésus l'a dit. Donc là, il faut connaître la parole pour répondre, hein? Pardon? Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 4 ou 5? Jean 8. Bon, d'accord. Super. Oui. Oui, oui. Exactement. Et puis, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et il y a pléthore de ça, on n'a pas de souci, hein. Il y a juste appuyé dans la Bible. Hein. C'est pas une doctrine qu'on a fondée sur un texte. Hein. Ok. On continue? La vie n'a pas de sens. Vous l'entendez, celui-là? On l'entend beaucoup, hein. Oui, pas de but, pas de sens, pas d'objectif. C'est pas les mêmes mots, ça définit pas les mêmes choses, mais ça se regroupe dans l'idée des gens. Là, en termes de logique, qu'est-ce que vous répondriez? Où est-ce qu'il y a une incohérence? Incohérence qu'on appelle pragmatique. C'est-à-dire que dans les faits, on met un sens dans tout ce qu'on fait. On va à l'école, on passe un diplôme, on fait des enfants, on fait des choses, on n'est pas là à se dire « Non, mais la vie n'a pas de sens, du coup, je ne fais rien. » Non. On fait des choses parce qu'il y a un sens. Ce que veulent dire les gens quand ils disent qu'il n'y a pas de sens, c'est qu'ils ne le comprennent pas. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est autre chose. Ouais, vas-y.
Sur la question de l'univers et une cause.
Oui.
Je sais qu'il y a plein de scientifiques du 19e qui disaient que l'univers, c'était tout simplement Internet, il n'y avait pas de cause. L'univers est là, tout simplement. C'est la grande affaire qui serait des cas, je pense que tu vas parler de
ça. Non. Ok. Bah, vas-y.
Non, en fait, le fait que l'univers est une cause, c'est un des arguments, je crois que le cas, c'est un raisonnement, c'est que tout ce qui existe est une cause, l'univers existe, par exemple, l'univers est une cause. Puisque l'univers il est immensément grand, on ne connaît pas les limites, et qu'il est extrêmement puissant, la cause doit être encore plus grande, plus puissante, sans limite, hors du temps, c'est l'argument du cadavre.
Exactement.
Et super. Elle est souvent attaquée, cette argumentation, parce qu'il y a encore des scientifiques aujourd'hui qui disent l'univers existe, point.
D'accord.
On peut répondre à ça, parce que généralement, l'argument c'est l'univers existe, il n'a pas de cause. C'est la seule chose qui
n'a
pas de cause. Vous connaissez aujourd'hui comme Dieu.
Ouais.
En quelque sorte, l'univers devient Dieu, hein. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? J'ai une
autre
question,
je
connais,
c'est rare. Ouais, j'y ai pas pensé, donc il me faudrait du temps.
Je dois
donner
numéro.
Bah voilà, donne-moi mon numéro. Oui. Oui, non, je crois que j'ai un élément de réponse, on va y arriver. Non mais c'est bien, si tu veux, mais il me faut du temps moi, c'est le soir en plus. Là tu me fais un vieux sophisme de base. Tu testes la validité, vas-y. Alors Dieu a créé l'univers, les planètes sont dans l'univers, donc Dieu a créé les planètes. Oui, il n'y a pas de problème. Qu'il y avait la vie que sur Terre. Fou là, tu vas. t'es tordu. Hein. Alors, donc l'homme nomme les planètes, du coup il y a la vie que sur Terre. Vas-y.
Qu'est-ce qui prouve que Dieu a créé la vie sur Terre et finalement, la Bible, elle est le reflet de tout ce qu'il y a. En gros, la vie sur Terre est une part ailleurs. Donc, pourquoi c'est pas la vie ailleurs sur les autres planètes?
D'accord. Ça, c'est la. On va y venir, c'est une forme de preuve, par ce qu'on appelle la preuve par le silence. Parce qu'on n'a pas mentionné ailleurs, donc Dieu a pu faire ailleurs. Là, tu réponds avec la création. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prendrais là, de but en blanc. J'avoue, je m'étais jamais posé la question. La révélation de la création. Voilà ce que je dirais. Quel est le but de la création? Dieu simplement ne crée pas, mais il crée dans un but. C'est de se glorifier auprès des êtres humains, que les êtres humains règnent sur la création qu'il a faite, et tout ça, et voilà, je déroulerai dans ce sens-là. Je veux dire, Dieu, c'est pas parce qu'il est capable de... Je veux dire, c'est pas un distributeur automatique, quoi. Il crée dans un but. D'accord? Il y aurait d'autres choses, mais il me faudrait du temps, et je pense à d'autres. L'existence du mal réfute l'existence de Dieu. Oui, mais en termes de raisonnement, qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? Très bien, qui t'a dit? Excellent. Ouais. Mais là, en fait, je veux vous faire comprendre les logiques qu'il y a dedans. Oui? Développe.
Thank you.
Là, vous parlez de la distorsion du bien. Ouais. Souvent, on donne cet exemple-là de la rouille. Que la rouille en soi n'existe pas, ce n'est que l'altération du fer. C'est l'oxydation hein, du fer. Donc en soi, c'est le fer qui est perverti, quoi, le fer qui a été altéré. Et donc le mal, en fait, c'est le bien, la volonté de Dieu, la bonté de Dieu qui a été altérée. Vas-y. D'accord. Ok, là je dans l'état. Ok. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'il y a un problème d'intelligibilité. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que l'énoncé pose un plus grand problème. Si Dieu n'existe pas, on doit en plus expliquer l'univers en plus du mal. Vous comprenez? Alors, Dieu, le problème là qui est présenté, c'est que l'existence du mal réfute l'existence de Dieu. Ok, mais si Dieu n'existe pas, comment tu expliques la présence du mal dans un univers que tu n'expliques pas? Tu exposes un problème qui est encore plus grand et je te demande d'y répondre. Oui? Non? Oui. Oui, mais du coup, faut qu'il t'explique. Du coup, faut qu'il t'explique l'existence de l'univers. On revient à la question de la causalité. On a un effet qui n'a pas de cause. Du coup, il doit t'expliquer un effet sans en connaître la cause. Et dire, et je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, dire du coup que tu as un effet qui est le fruit du hasard est plus irrationnel que tu as un effet qui est le fruit d'un créateur. Dire que la création, quand tu constates, là on est dans des vérités qu'on va observer, qu'il y a des lois physiques, qu'il y a une organisation, qu'il y a une intelligence, une complémentarité, on peut multiplier une beauté, voilà, des arguments comme ça, c'est comme dire, tu démontes toutes les pièces, là, du haut-parleur, vraiment toutes, tu les prends, tu les jettes, et au hasard, t'as une chance qu'elles se rassemblent toutes et qu'elles te forment le truc en atterrissant seul. Dire que le hasard est à l'origine de la création, c'est encore plus irrationnel que de dire que quelqu'un a créé. Et il y a une autre image que j'aime beaucoup. On raconte l'histoire, c'est deux hommes qui discutent, et il y en a un qui voit, c'est à l'origine, en fait, quand on a créé les premiers globes, vous savez, qu'on met sur les bureaux, là. On regarde, les globes, tout simplement. Pour faire simple, hein, bien sûr. Donc, il y a un globe, et puis la personne rentre et voit le globe de son ami en bois, sculpté, qui est trop beau. Il lui dit, mais qui a fait ça? C'est magnifique, dis-moi, je veux le même. L'autre, il dit, non, mais personne n'a fait. Personne n'a fait. Il est là. C'est le hasard, je sais pas. Je peux pas l'expliquer, il est là. Et tu lui dis, non, mais tu te moques de moi. Pourquoi tu veux pas me dire, tu veux être le seul qu'il est, ce nouveau globe? Et tu dis, attends, tu as du mal à croire que l'univers a été créé, mais par contre, un bout de bois rond, pour toi, forcément, il y a quelqu'un qui l'a créé. Hein? Il a été taillé, Et tout ça, mais tu dis, non, c'est le fruit du hasard. Et pour toi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui ait fabriqué ce truc-là. Mais par contre, l'univers, pour toi, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fabriqué. Tu transposes avec quelque chose de plus grand et d'encore plus merveilleux et d'encore plus complexe. Et pour toi, c'est encore moins possible qu'il y ait derrière un créateur, un ingénieur, quoi. D'accord? Problème d'intelligibilité. D'intelligibilité. Le Nouveau Testament n'est pas crédible. Ah oui?
Dès
que Dieu dit, tu nous commences une étude de l'arbre, il y a un arbre, jardin. Donc de là, tu donnes la connaissance de ce que Dieu est mauvais. Ouais. Donc, tu vois, tout à fait. Là, il faut que tu les envoies le jeudi à Montreuil, un jeudi sur l'eau. Oui, non, là, après, on est dans. Alors, c'est. Tout à fait intéressant, mais on est hors du cadre que je veux voir, mais on pourra y répondre après dans les temps de questions-réponses. Hein. Je vous propose ça, c'est que ce qui est un petit peu hors cadre, on les garde pour après. Oui, on en voit encore un, ou on l'a fait maintenant? Ouais, on prend 5-10 minutes de pause. Clément? Ça te va? Continuez, vous êtes chaud? D'accord. Ok. Le Nouveau Testament n'est pas crédible. Là, vous invoquiez Peter Williams. Alors.
Le Nouveau Testament n'est pas crédible.
Oui. Qui te l'a dit? Exactement. Ouais. Proposez des réponses, hein. Il n'y en a pas une seule. En fait, excusez-moi. Là, c'est des affirmations. Je ne dis pas qu'il y a une seule réponse et que c'est ces réponses-là qu'il faut affirmer. Moi, je veux relever des questions de logique parce que les logiques sont la matrice. Vous voyez, on parle de matrice. Et si vous comprenez la façon de penser, la logique, derrière, vous allez pouvoir décoder et quand les questions seront formulées différemment, vous pourrez reprendre. C'est plus intéressant que de faire uniquement quand on me dit ça, je dois répondre ça, parce que si on formule après une question qui est légèrement différente, on se retrouve un peu désarçonné. Excuse-moi, vas-y. Tout à fait. Tout à fait. Tu as plus de preuves sur la vie de Jésus que sur la vie de Napoléon. Hein? Le Nouveau Testament, c'est ce qu'il y a de plus documenté, c'est le top numéro 1. Vous savez quel est le deuxième livre le plus documenté de l'histoire? Ouais, exact. C'est bien. Vous êtes calé. D'accord? Là, ce que je vous propose, c'est qu'on veut mettre à l'épreuve la crédibilité des auteurs. Et il suffit juste de raconter, je pense, la vie des apôtres. Parce que tout simplement, on ne meurt pas martyr pour un mensonge que l'on conçoit. Ça me semble pas très logique. On parle en termes de logique. Je vous propose une réponse logique. D'accord? Tu montes un bateau phénoménal, tu vas pas mourir en martyr pour quelque chose que tu aurais créé, que tu sais faux. On meurt pour quelque chose que l'on sait vrai, que l'on veut défendre. Pardon? Peut-être qu'il ne savait pas? Donc, il ne savait pas que c'était pas vrai qu'ils ont vu Jésus ressuscité? Oui. Oui, mais Pierre.
Il l'a vu.
Oui, il l'a vu.
Oui.
Il l'a vu. Attends, on s'écoute, s'il vous plaît. D'accord. Donc toi, tu mourrais. Alors. Oui, non, mais attendez. C'est quoi l'évangile?
Non, mais je veux dire, attends.
Oui, mais l'évangile, c'est quoi? Quelle est la question la plus importante pour un chrétien? Voilà, sinon notre foi est vaine. La résurrection est un fait historique qui a été constaté par des témoins oculaires. Si ces personnes témoignent de quelque chose qui est faux, ils se mettent d'accord entre eux. Ouais, bon, alors on dit qu'il est ressuscité parce que ça nous arrange. Là, je vous inviterai, ça serait intéressant de faire, peut-être que vous l'avez déjà abordé, vous l'aborderez, mais les preuves de la résurrection, c'est capital. Rien que dans le texte de Matthieu, une fois qu'on a démontré que le texte est fiable, après, il faut juste dérouler parce que c'est improbable que les apôtres aient menti à propos de la résurrection. Parce qu'ils n'avaient pas accès au tombeau. Impossible d'avoir accès. Il y avait un custodias qui le gardait. C'était des Golgothes qui étaient devant. Ils étaient une demi-douzaine et approchés d'un custodias, je vous promets, on s'en approche pas comme ça, c'est pire que le GIGN. Ils n'avaient aucun intérêt. Ils avaient tous abandonné Christ. Il n'y a aucune cohérence avec ça. Après ça, ils ont affirmé qu'il était ressuscité. Et sur cette affirmation, ils ont été prêts à mourir. Ils n'en ont pas démordu. Alors que s'ils avaient dit quelque chose qui était faux, tu vas pas le défendre jusqu'à la mort. Tu ne meurs pas pour défendre quelque chose que tu sais faux. Enfin, tu peux, mais c'est que t'as un problème, quoi. Et il n'y a pas que, il y a eu énormément. Et après, on peut développer toute la question de des témoins oculaires qui étaient là, de la retransmission, de la fiabilité des textes, de l'impossibilité pour eux d'avoir volé le corps. On peut développer aussi toutes ces choses-là. Mais la question de logique, c'est que, que moi je vous propose là, c'est qu'on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait faux. Oui.
Si on sort du cadre de l'histoire de l'Église et qu'on l'applique à l'histoire que vous connaissez dans l'Église, on a envie de voir
Bien sûr. C'est à double tranchant parce que tu peux avoir une objection du style. Ouais, mais regardez les gars qui ont fait un otage de centre commercial au Nigeria à Lagos, eux aussi étaient prêts à mourir pour leur idée. Donc, ça peut être une objection, mais ça ne tient pas parce que les gens qui sont morts pour leur idée dans le Nouveau Testament sont des gens qui, 10 minutes avant, 2 jours avant, étaient des lâches
qui ont abandonné Jésus. Tout à fait. Non. Et puis, on est. Je me souviens, la preuve, la question du journalisme, on doit toujours présenter un faisceau de preuves. Et ça, c'en est un parmi d'autres. Et pour moi, les preuves les plus convaincantes sont celles qui sont dans le texte, comme le récit nous est raconté. Une fois qu'on a confiance en la fiabilité du texte, pour moi, c'est de là. En fait, c'est ça qui est fou, mais de ne pas croire en la résurrection, c'est la chose la plus folle, la plus improbable. Parce que même la pierre, vous savez le poids de la pierre qu'il y avait devant le tombeau? Il y a des ingénieurs qui se sont posés la question, qui sont allés là-bas sur place. Josh McDowell, ok, je vous invite, il s'attarde beaucoup sur toutes ces questions-là. La pierre qu'il y avait devant, c'était du granit. Et ils ont calculé, ils ont fait une moyenne à peu près sur toutes les pierres que l'on mettait, ça s'appelle un golel. Et tous les golels qu'on mettait devant les tombeaux, ils ont calculé à peu près la moyenne. La moyenne de la taille d'un golel, c'est de 4 tonnes et demie. Même moi, j'ai un peu de mal. 4 tonnes et demie. Devant cette pierre de 4 tonnes et demie, il y avait une garde romaine. D'accord? Un custodias. Le custodias, c'était une troupe, un légionnaire romain, c'était pas les légionnaires comme on les voit dans Astérix et Obélix. Ok? Vous voyez un légionnaire aujourd'hui, hein, la Légion étrangère française, et ben c'était au moins ça. Et quand on a 6 devant et que t'as des gars en face qui sont des pêcheurs, qui sont des gars qui étaient quoi, collecteurs d'impôts et tout ça, on ne va pas s'attaquer à un custodias. C'est pas possible. Le custodias est organisé pour qu'il y ait constamment 2 gardes qui soient éveillés et qui montent la garde devant la chose. Sur le golel, on mettait un sceau, parce que quand custodias est engagé, c'est l'autorité militaire qui est engagée. Donc le chef venait, mettait un sceau. Si le sceau était rompu, tout le custodias était condamné à mort. Donc ils avaient aucune chance de faire une magouille avec les disciples pour enlever le corps de Jésus et tout ça. Enfin bref, voilà, c'est pas le moment de dérouler, on prendrait bien trop de temps, mais voilà, oui.
Quand il est ressuscité, c'est en mode caché. Quand il est dans la croix, c'est public, tout le monde le voyait.
Oui.
La
oui.
C'est moins clair.
Alors, les faits se sont déroulés. Que je te pose pas de bêtises, parce que là-dessus, ça fait longtemps, mais la garde romaine a vu, forcément. Ils ont vu. Voilà. Ils l'ont vu. Le texte de Matthieu, effectivement. Ils l'ont vu, ils le savent, même qu'après, les chefs politiques ont essayé de les soudoyer. C'est dans ce but-là. C'est vraiment, voilà. Du coup, il y a ça. Après, il y a l'apparition à tous les disciples. Donc, c'est quelque chose qui a été manifesté. Il y a eu les femmes. Après, il y a eu il y a eu tous les disciples. Donc, il y a eu quelque chose de tout à fait public, quoi. Donc, ça, c'est pas la crucifixion. Et puis, il y a simplement même la nature du fait historique. C'est que une crucifixion, c'était quelque chose de public. Une résurrection, on n'avait pas trop l'habitude de faire ça en public à l'époque. Donc, désolé s'il n'y avait pas la foule qui était. Voilà. Pourtant, il avait annoncé. Mais la preuve qu'ils ont placé, enfin, excuse-moi, jusqu'au bout. Mais la preuve qu'ils ont placé la garde romaine devant le truc prouve qu'ils avaient vraiment les pétoches que ça arrive et ils ne voulaient pas qu'il y ait de témoins. Ils voulaient verrouiller la scène du crime. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, avant tout ça, c'est qui te l'a dit ? Est-ce que tu peux me le démontrer, quoi ? Montre-moi déjà qu'il n'est pas fiable et puis après on verra. Hein.
Simplement juste dire, vous avez trois grandes preuves qui prouvent que la résurrection ne peut pas avoir été inventée. Le tombeau vide, les apparitions de Jésus post-résurrection à 10 occurrences différentes de l'Église, et enfin la fondation de l'Église. Vous ne pouvez pas expliquer l'histoire de l'Église qui n'a pas la résurrection. Vous ne pouvez pas expliquer une expansion aussi rapide en 20-30 ans. Si vous n'avez pas un événement qui s'appelle la résurrection, c'est pas possible. Je viens de vous envoyer à l'instant deux articles qui sont assez synthétiques, qui ont été écrits par Bob Gonzalez d'un séminaire aux États-Unis, Ils sont assez synthétiques, et je vous enverrai, je pense, après la campagne, un article d'un gars qui s'appelle William Lane Craig, qui vient d'être corrigé par JP. Et c'est un article à peu près, je crois, qui doit faire 2000 mots. Et cet article-là, c'est l'article qui synthétise un petit peu toute la pensée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Glenn Bray, c'est le meilleur défenseur de la résurrection qui existe encore en finant le monde.
Je pense
que ça va être après.
Ouais. Après, il faut développer. Hein. Il faut lire les choses et tout ça et développer justement des arguments. D'accord. On avance. S'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est un... S'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, mais en termes de logique, ce que je vous propose, c'est que le raisonnement est invalide parce que la vérité est affirmée à partir de l'impossibilité de prouver l'inverse. Tu ne peux pas prouver l'inverse, donc tu affirmes que ça n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a pas l'inverse que lui, il n'existe pas. Tu vois ? Voilà. Tu le reformules ? Donc, le raisonnement. L'affirmation, c'est s'il n'y a pas de preuve, c'est qu'il n'existe pas. Si je ne peux pas prouver là maintenant que tu as un père et une mère, c'est qu'il n'existe pas. C'est ça ? J'ai raison. Est-ce que c'est pas, est-ce que la chose existe par ma capacité à démontrer qu'elle existe? Ok, vous me rassurez parce que. Ok, soit Jésus était Dieu, soit il était homme. Or, il était un homme, donc il n'était pas Dieu. Oui. Oui. Alors, on revient.
Dans la formulation, il n'y a pas de projection juste en Dieu, c'est pas forcément à nous. Maintenant, il dit dans la généralité, il n'y a pas de problème.
Oui, 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 tout à fait. Oui, mais ça change pas. C'est pareil, c'est le même raisonnement. Ça te dépasse. Yeah. La vérité, tu l'affirmes parce que tu peux pas prouver que Dieu, tu peux pas prouver l'inverse de ce que tu formules. Tu comprends? Parce que tu peux pas prouver l'inverse, tu dis que. Voilà. Tu dis, il n'y a pas de preuve, d'accord? Donc, forcément, voilà. Parce que je ne peux pas démontrer l'existence, ça n'existe pas. Parce que je ne peux pas te démontrer l'existence d'une planète, voilà, forcément elle n'existe pas. Tu as un endroit que tu ignores, il y a la possibilité qu'elle existe, mais que tu ne saches pas, tu ne puisses tout simplement pas t'exprimer. Là, on est dans un raisonnement. Si Jésus était Dieu, soit Jésus était Dieu, soit il était homme. Or, il était un homme, donc il n'était pas Dieu. Oui, tout à fait. Mais... Exact. Bien vu. C'est un faux dilemme. C'est ce qu'on appelle ça. C'est qu'on on met une disjonction et on ne n'émet pas une autre hypothèse. Volontairement, il y a ce qu'on appelle un prémisse. C'est-à-dire une autre hypothèse qu'on a enlevée. Le vrai raisonnement, c'est, ça serait soit Jésus était Dieu, soit il était homme, soit il était les deux. Okay? Là, on présente toutes les hypothèses qui nous sont données. Voilà. Si mon prof de bio dit que Dieu n'existe pas, alors c'est vrai. Pourquoi Dieu n'existe pas? Ah bah parce que mon prof de bio, il me l'a dit. Ou mon père, il me l'a dit. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. D'accord? C'est qu'on invoque une autorité pour dire. Ok. Ouais, mais Michel Onfray, il a bien dit, quoi. Hein? Voilà, on invoque un nom et on se cache derrière ça. Et franchement, ouais, c'est l'horreur. Ouais, mais Carson, il a dit que, voilà, donc, oh, ok, Carson a dit, je m'incline, quoi, tu vois. Voilà. Ou lui, il a dit, voilà. Oh, Guillaume, il nous a dit, alors, ok, d'accord, si Guillaume nous a dit, c'est vrai. Ouais, j'espère. Un jour j'ai prié, mais ça n'a pas marché, donc Dieu n'existe pas. Répondez-moi et après je vais vous fumer, s'il vous plaît, parce que. Voilà. Non, en termes de raisonnement, je te demande. Je te demande pas de lui formuler une réponse, je te demande de montrer que ce raisonnement est faux. Exactement. Vous voyez, c'est super ce que tu fais parce qu'il reformule. Et quand tu reformules, ça t'aide à montrer l'absurdité de la chose. Vas-y, Callaghan. Oui, voilà, oui. Voilà. Voilà. Mais en termes de raisonnement, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a reformulé. Et ça te permet de dire que tu ne peux pas faire d'un cas particulier une généralité. C'est ce qu'on appelle la généralisation abusive. Elle n'est pas justifiée. C'est pas ton expérience qui crée une norme et une vérité. Ton expérience a valeur d'expérience. Elle est personnelle, oui. Oui. Merci. Oui, merci. Et c'est pour ça que maintenant, je voudrais vous faire une remarque. Pardon ? Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils ont prié pour leur mère, par exemple, et que... Merci. Merci de le rappeler. C'est ce que je disais, c'est identifier ce qu'il y a derrière la question. Quand on pose ça en préambule, c'est très important. Merci de le rappeler. Oui, je voulais vous dire, à propos de ça, j'ai entendu beaucoup que d'encourager les gens à prier pour que Dieu se dévoile, que Dieu se révèle. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi vous leur dites de prier pour que Dieu se dévoile à eux ? Est-ce que, alors, dites-moi comment Dieu se révèle de manière spécifique, s'il vous plaît. Et faites gaffe, parce que si vous me donnez une mauvaise réponse, c'est lui qui va prendre. Pardon ? On peut dire amen d'avance. Comment Dieu se révèle de façon spécifique, claire, infaillible ? Dans les Écritures. Alors pourquoi on leur dit prier ? Oui, je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est encouragez-les à lire l'Évangile. Lis l'histoire de Jésus. Regarde ce qu'il dit, tu vas voir. Regarde si tu te penses qu'il a autorité. L'autorité, elle est dans la parole de Dieu. Et Dieu se révèle par sa parole. Jean chapitre 1, pour nous communiquer, la parole a été faite chair. Donc Dieu communique, la parole incarnée. Ok. Voilà. C'est dire, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lu en disant, si vraiment Dieu tu existes, et ça vient de toi, révèle-toi à moi, là, et montre-moi que je peux avoir confiance en ces paroles-là. Et l'autorité de la parole de Dieu se manifeste par le témoignage du Saint-Esprit. Ok? Voilà, le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Donc demander au Saint-Esprit de fonctionner sans la parole de Dieu, c'est dommage, on se prive d'une alliance. Voilà. Mais alors moi je leur demande ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont lu. Parce que les gens, oui mais moi la Bible j'ai lu. Ah moi vous savez, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, je me suis intéressé à tous les trucs. Enfin franchement, à moins que tu tombes sur quelqu'un d'exceptionnel, vraiment, quelqu'un c'est très rare. La plupart, ils disent ça, c'est qu'un jour, ils sont tombés sur une Bible, ils ont ouvert, ils ont lu Genèse chapitre 1, au pire, ils sont à gauche chapitre 6, ils n'ont pas entendu parler des gens, ils ont laissé tout tomber, quoi. Les gens, et moi, je leur dis, lisez l'Évangile, lisez l'histoire de Jésus. Commencez par là. Vraiment. Et priez pour que, si vraiment, c'est lui, vraiment, qui vous le démontre, quoi. Hein? Et le Saint-Esprit fait son travail après. Oui.
Juste une question, oui, pour rebondir à cette question-là. Peut-être que c'est en tête, je pense que ce n'est pas très important, mais qu'il y a dans la parole que Dieu répond.
Oui, mais c'est vrai. Et je vous dis pas...
J'ai l'impression que s'ils ont ça en tête, ils pourront rebondir sur ce qu'on a un moment fort. Vu que s'ils ne répondent pas,
Oui, mais Dieu, pourquoi Dieu t'aurait répondu ? Est-ce que Dieu doit te répondre ? Voilà. Et là, c'est le présupposé Père Noël. Dieu, il est gentil. Attends, je lui avais demandé, ma grand-mère, elle était vieille, âgée. J'abuse. Ma grand-mère était vieille, âgée, je ne voulais pas qu'elle meure, elle est morte. Oui, exactement. En fait, il voit distributeur automatique, quoi. Je veux ça, tu me l'accordes, il me l'a pas accordé, je suis pas content.
Oui. On devient souvent, dans le milieu chrétien, celui qui cherche. Oui. Effectivement, si vous avez quelqu'un à chercher, il va forcément trouver. C'est vrai, c'est faux. Déjà, celui qui cherche tout, c'est dans un contexte. Regardez le contexte, la dimension d'élection, de destination, elle est ultra présente. Donc, c'est pas n'importe qui cherche. Celui qui est préparé à chercher, premièrement. Deuxièmement, on a aussi souvent l'objection autour de nous, des gens qui cherchent sincèrement, mais qui ne trouvent pas manifestement. Mais la question, c'est, qu'est-ce qu'ils cherchent? On a eu la discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui cherchait, mais le Dieu qu'elle cherchait, cette personne, c'était un Dieu qui la cherchait dans un sens. Donc, si ces gens-là cherchent, ce sont des gens qui trouvent, ils trouveront ce qu'ils ont envie de trouver. Ils ne trouveront pas le Dieu qui lui serait.
Ils trouveront même ce qu'ils ont envie de trouver dans la Bible. Satan l'a fait. Ok ? Tout ça pour dire que je crois vraiment à l'autorité de la parole de Dieu. Hein, c'est ce qui va faire autorité dans la vie de la personne. Parce que nous-mêmes, quand on reformule, on est nous, quoi. Alors que quand il voit que Jésus a dit, c'est... Alors, tu crois parce que tu as peur de la mort. Ça, c'est pernicieux. Ça, c'est le coup bas. Ah. Là, on est dans le sophisme, mais bien, là, c'est politicard. Hein, c'est... Ah. Vous êtes de gauche parce que vous êtes un idéaliste. Tu vois, c'est le genre de tu vois, c'est le genre, même genre de logique. Alors, cet argument, c'est ce qu'on appelle l'argument ad hominem. C'est bien, ça fait latin, ça fait toujours classe. Hein. Donc, en fait, tu attaques le messager pour disqualifier la thèse. On peut croire pour de mauvaises raisons. D'accord? Voilà. Ok? Mais on attaque la personne pour disqualifier la thèse. Alors, attends. Là, c'est la question des motivations. On t'attaque sur tes motivations. On te dit, t'es motivé parce que t'es faible. Ouais, j'ai peur de la mort. Et alors? Voilà. L'objet de ta foi reste bon. Tu vois, on t'attaque toi à cause de l'objet. Enfin, on attaque l'objet de ta foi au travers de toi. Ok? Mais néanmoins, je tiens à dire que c'est important d'être cohérent avec son message. Dans une dimension éthique. Hein. Quand on voit le nombre de gens qui ne croient pas en Dieu, c'est impossible qu'ils ne se trompent pas tous. Voyons. Qu'ils se trompent. C'est impossible qu'ils se trompent tous. Enfin, la majorité dit ça, donc forcément, ils ont raison. Excellent. Excellent. Là, on est vraiment dans le raisonnement.
Quand on voit le nombre de gens qui sont pas rentrés dans l'arche.
Oui, mais nous, on pense tout à fait à ça. Forcément. Ok? Alors, la vérité ne dépend pas de son nombre d'adhérents. Et moi, j'aime bien cet exemple de Démocrite, au 5e siècle avant Jésus-Christ, était convaincu de l'existence que la matière, on pouvait toujours la diviser jusqu'à ce qu'il y ait une particule qui soit indivisible, c'était l'atome. Au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était un des seuls, à ce qu'on sache, qui croyait ça. Est-ce que pour autant, il avait tort? Non. D'accord? Donc là, il y a d'autres faits qui invalident. Alors, je vous propose qu'on prenne 5 minutes, et puis après, pendant 10 minutes, on passera au travail à partir de l'objection. D'accord? Pardon? Oui? Oui, on va faire un travail en petit groupe. D'accord? Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, il faut que vous, après, vous le mastiquiez un petit peu entre vous. D'accord?